Madame Julien, la musique religieuse était déjà très importante au XVIIIe siècle. Laquelle avez-vous choisie pour accompagner ce grand bouleversement qu'a entraîné la réforme religieuse par la Révolution française?
Nous écouterons aujourd'hui des extraits de l'oratorio de Handel, le Messie. Mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Et pour être fidèle à la vérité, je dois donner quelques précisions. Nous sommes donc toujours en 1790. Et cette même année, Mozart fut chargé par un de ses employeurs d'une curieuse mission. J'ai dit employeur parce qu'il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, ces grands compositeurs qui dominent encore aujourd'hui le monde musical étaient souvent au service de riches personnages, un peu comme des valets, qu'on payait peu et à qui l'on faisait des commandes. Donc, on demande à Mozart de réinstrumenter, pour les mettre au goût du jour, des cantates et des oratorios d'Haendel. Un oratorio est une sorte d'opéra sans mise en scène, à caractère religieux en général, et où les chœurs jouent un rôle prépondérant. L'évolution des goûts musicaux était très rapide à cette époque et l'on n'hésitait pas à moderniser une œuvre d'un compositeur mort depuis une trentaine d'années à peine. Et en effet, 50 ans après sa création, le Messie apparaissait démodé. Il fallait l'actualiser. C'est la raison pour laquelle Mozart est chargé d'une adaptation. C'est un travail de second ordre, mais Mozart admire trop Handel pour laisser à d'autres cette besogne. Et pour ce faire, il introduit des vents, trompettes, cors, hautbois, bassons, là où ils étaient absents, et il donne aux voix, au chœur, un rôle de premier plan. C'est de cette adaptation qu'il s'agit aujourd'hui. Le Messie d'Haendel, revu par Mozart, deuxième partie.
Monsieur Julien, nous l'avons dit la semaine dernière, on a souvent l'impression que la Révolution française s'est faite en un seul jour, le 14 juillet 1789. Vous nous l'avez déjà montré et vous allez continuer à le faire. En réalité, la Révolution avait commencé bien avant le 14 juillet et elle s'est poursuivie bien au-delà.
Bien au-delà. Et nous en étions restés justement la dernière fois à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. On chercherait vainement dans les documents de nos archives un écho quelconque de cette fête de la Fédération, cette grandiose manifestation populaire qui avait rassemblé au Champ de Mars à Paris autour des délégués des gardes nationales des 83 départements, donc de nos gardes nationaux, plus de 500 000 personnes. À lire les documents, les procès-verbaux de réunion de la municipalité, on retire l'impression que les bourgeois et les notables de notre ville, comme les bourgeois et les notables de la France entière d'ailleurs, sont convaincus, absolument convaincus, que la Révolution, maintenant, est achevée. Pourtant, les réformes déjà décidées ou entreprises par l'Assemblée constituante étaient trop profondes pour que leur application ne suscite des réactions hostiles qui engendreront progressivement le processus révolutionnaire. Ainsi, parmi ces réformes, la réforme religieuse, qui va avoir de si graves conséquences en France, et dont l'une des conséquences les plus lointaines, les plus contemporaines, pourrais-je dire, reste ce sentiment d'hostilité et d'aversion de la majorité des catholiques pour la Révolution française. On doit à la vérité de dire que l'application de cette réforme religieuse à Saint-Antonin s'est faite sans drame notable, sans excès iconoclaste grave et sans persécution inhumaine. Et je voudrais que nos compatriotes me croient là-dessus, puisque ce n'est pas une affirmation, c'est une conclusion extraite de la consultation des documents d'archives. Il est donc insupportable d'entendre dire, par exemple, encore aujourd'hui, par des gens dans les rues qui passent, « Ah, mais ça, vous savez, là, ça a été détruit par la Révolution. » Non, très peu de choses ici. Les documents en font foi. Et l'on souhaiterait donc une plus grande modération de la part de ceux qui, sans preuve, chargent nos ancêtres révolutionnaires de tous les méfaits. Première mesure prise en application de cette réforme et au nom du principe sacro-saint de la liberté individuelle proclamé le 14 juillet 1789, la première mesure prise donc, c'est la suppression des ordres religieux décrétés par l'Assemblée nationale le 13 février 1790. Il y avait alors dans notre ville 4 couvents d'hommes qui avaient été jadis prospères et vivants, mais qui progressivement étaient tombés en décadence. Le premier, le plus prestigieux, c'était le couvent des Génovéfains. Ces Génovéfains habitaient la mairie actuelle, et ils n'étaient plus, en 1790, que 6 pour 12 places de chanoines qui auraient dû vivre dans ce couvent. Il y avait ensuite les Carmes, installés dans notre ville depuis le XIIIe siècle, et qui vivaient alors dans un couvent au-delà du temple actuel, dans ce qui est aujourd'hui cette longue bâtisse divisé entre 3 ou 4 propriétaires, je crois. Et d'ailleurs, dans une partie de cette bâtisse, on va prochainement construire une annexe ou des appartements de la future gendarmerie. Ces Carmes, ils étaient 6 aussi dans un couvent qui pouvait, nous dit-on, en loger 16. Il y avait les Cordeliers, introduits à Saint-Antonin par Saint-Louis. C'était un modeste couvent, à la porte rodanaise, dans ce qui constitue aujourd'hui un moulon, où ne vivent plus grand monde d'ailleurs. Et autrefois habitait là M. Cavaillé, M. Houlès, et actuellement je crois que toutes les maisons sont inhabitées. C'était là qu'étaient les Cordeliers. En 1790, il n'y avait plus qu'un seul religieux dans ce couvent. Enfin, le couvent des Capucins, ce bel immeuble où habite M. Lestrade, et dont l'église abrite aujourd'hui le garage Renault. C'était un couvent très important, on l'appelait la Capucinière à ce moment-là, qui englobait autour du bâtiment central du monastère des jardins avec cour parterre, dans un vaste enclos allant de la rue droite jusqu'à l'ancienne maison d'Aumont, je ne sais pas si on voit où je veux dire, et qui occupait tout le territoire compris entre les deux canons de Bonnette. Enfin, dans ce couvent des Capucins, il ne restait plus que 4 moines capucins en 1790 et 3 frères laits ou frères converts. Hors de la ville existait le couvent des Bernardines de Costejean, ou si vous voulez des cisterciennes de Costejean, datant lui du XIIe siècle, que nous appelons aujourd'hui les Monges, et où ne vivait alors, en 1790, plus aucune religieuse. On le voit bien. Ces couvents ou monastères étaient alors à moitié ou tout à fait vides de religieux. La décision de l'Assemblée n'a donc fait, en définitive, que précipiter un mouvement depuis longtemps amorcé.
Vous nous aviez décrit les ordres religieux puissants et influents.
Oui.
On s'aperçoit qu'en 1789, ils étaient tombés en décadence.
Total.
Il serait intéressant de comprendre comment on en est arrivé là. Et pour cela, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière?
Je pense qu'il y a deux causes généralement admises à cette décadence du système monacal en France et sans doute aussi dans toute l'Europe. La décadence de la vie religieuse des moines et des moniales a commencé au XVIe siècle quand, par une décision du Concile de Trente, les abbayes ont été placées en commande. Autrement dit, l'abbé, le chef de l'abbaye, au lieu d'être élu comme cela avait été de règle depuis la fondation au Xe siècle des premières abbayes et monastères, au lieu d'être élu par ses pairs, par les moines de l'abbaye, cet abbé, cette abbesse, était nommé par le roi. Et évidemment, il fallait avoir l'accord du pape, mais c'était nommé par le roi, ce qui fait que progressivement, ces postes de chef de monastère ont été occupés par des gens qui n'avaient pas vocation religieuse, mais qui trouvaient là le moyen de se créer une excellente situation pécuniaire, parce que tous les monastères étaient en général riches, et le titre d'abbé faisait participer aux revenus, avec évidemment une part prépondérante. Ça, c'est la première raison.
Oui, et qui nommait les autres membres des couvents ou des monastères?
Les autres membres des couvents, dans les couvents, dans les monastères, et il ne faut pas croire que c'était des gens. Il y en avait deux catégories. Et cela depuis l'origine, notamment dans l'abbaye de Cluny, on distinguait deux catégories de religieux. Les religieux issus des familles nobles ou de haute bourgeoisie du pays ou de région de France, et qui avaient vocation. Dans une famille noble, l'aîné succédait au père, le cadet entrait dans l'armée, le troisième entrait dans les ordres, et généralement se faisait moine, mais d'une grande abbaye. Bon, ces moines avaient vocation à être moines, je suppose que c'était d'inspiration religieuse, et ils constituaient l'élite du monastère. À côté d'eux, existaient ce qu'on appelait les moines converts, ceux qui étaient chargés des travaux manuels dans l'abbaye. Et donc, jusque, disons, au XVIIe siècle, jusqu'à la réforme protestante, le recrutement de ces monastères s'est fait, je pense, par libre consentement, que ces gens-là, même issus de familles nobles, avaient une foi assez grande pour mener cette vie-là. Par la suite, les moines, chanoines, qui sont entrés dans les riches abbayes, sont entrés aussi parce que ça rapportait gros et que ça procurait des bénéfices importants. Voilà quelles étaient les catégories de moines. Enfin, je voulais parler de la deuxième raison qui a causé la décadence des monastères, des abbayes, c'est le nouvel état d'esprit qui caractérise le XVIIIe siècle. Nous l'avons vu au cours d'autres émissions et je ne reviendrai pas. Il y a un changement total. La foi a disparu chez beaucoup de gens et on ne va plus dans les monastères parce qu'on est croyant. On n'y va plus que parce qu'on a envie d'en tirer des bénéfices. Donc, c'est le manque de vocation religieuse. Ça, c'est pas une chose nouvelle. C'est les philosophes, les écrivains. C'est la mode du temps. On ne croit plus. Voilà.
Oui, vous dites on rentrait dans les monastères, dans les abbayes, parce que pour en tirer des revenus.
Des bénéfices.
Oui. Alors, comment étaient fixés les revenus, les bénéfices des membres de...
Ah, mais très simplement. Tout monastère, depuis déjà des siècles, était propriétaire de terres, de vignes, de bois, qui étaient mis en fermage. Et c'était en général des domaines considérables, dont le revenu suffisait amplement, non seulement à faire vivre et à entretenir le monastère, mais aussi à donner des ressources financières supplémentaires. On n'a pas idée de la richesse de certaines abbayes. Pour ce qui est des Génovéfains, s'ajoutait à ça, aux terres qu'ils pouvaient posséder, s'ajoutait quelque chose de considérable qui s'appelait la dîme. Parce que les Génovéfains qui habitaient la mairie actuelle étaient en même temps, le prieur était curé de la paroisse. Donc, à titre de cette vieille pratique qui s'appelait la dîme, ils avaient le droit de percevoir sur toutes les paroisses qu'ils administraient le dixième, le onzième ou le douzième, enfin une proportion de toutes les récoltes sans exception et des animaux à laine, comme les moutons, et ça faisait un revenu considérable parce que l'abbaye de Saint-Antonin de toute ancienneté avait juridiction non pas seulement sur la paroisse de Saint-Antonin, mais je l'avais dit tout à fait au début, sur un territoire qui allait de Monteils jusqu'à Saint-Grégoire de Tortusson au-delà de l'Exorce, jusqu'à Caylus, jusqu'à Mouillac. C'était énorme. Et ça faisait une douzaine ou quinze paroisses qui produisaient une dîme qui était versée aux Génovéfains. Voilà d'où venait le revenu.
Et comment ces revenus étaient-ils répartis entre les ecclésiastiques?
Ah ben ça, c'était l'abbé qui en assurait. Il y avait dans chaque monastère ce qu'on appelait un chapitre. Et il se réunissait un chapitre, il débattait de ces questions. Pour ce qui était des Génovéfains, ce que nous connaissons le mieux, eh bien c'était facile. Il y avait une sorte de syndic du chapitre, un trésorier, qui tenait les comptes. Et à la fin de l'année, on faisait l'addition. Et en 1790, je pense, je le retrouverai tout à l'heure, mais je l'ai noté. Et je crois que le revenu total s'est élevé à 30 000 livres. Eh bien, c'était très simple. Il y avait la répartition suivante. Deux tiers du bénéfice étaient distribués en parts égales à tous les chanoines. Et un tiers était donné à une autre catégorie de personnages qui s'appelaient les prébendés, qui étaient des bénéficiaires des revenus du chapitre. Je crois que ce serait trop long dans des détails, on n'en finirait plus.
Vous avez parlé de Costejean où il n'y avait plus aucune religieuse. C'était pourtant un très grand domaine.
Ah oui.
Qui c'est qui gérait ce domaine pendant ce temps et à qui revenaient les profits?
Ah voilà. Eh bien, Costejean avait été périclité depuis déjà bien longtemps, je l'ai dit. Il n'y avait plus aucune religieuse à Costejean. C'est un lieu écarté. C'était pas amusant de vivre là non plus. Hein. Bon, eh bien, ce Costejean était devenu une dépendance de l'abbaye de Leim dans le Lot. Et c'était la prieure de l'abbaye de Leim qui gérait Costejean. Et qui, par conséquent, avait placé là un métayer pour exploiter les terres, avait mis les terres qui ne devaient pas être exploitées par le métayer en fermage ou en rente amphithéotique, et ensuite un gardien pour garder les bâtiments. Au point que les consuls de Saint-Antonin, maintes fois, avaient protesté auprès de l'évêque de Rodez, parce qu'il n'y avait pas de religieuses dans le monastère. Ils en auraient voulu, eux, parce qu'ils auraient voulu que le monastère vive de Costejean. Comme ça, les produits de ce monastère seraient restés dans la juridiction de Saint-Antonin, tandis que là, ils partaient dans le Lot. Et de ça, les consuls n'étaient pas contents.
Thank you.
Tous ces couvents, donc, possédaient, outre les immeubles vastes et de construction récente pour la plupart, des terres, des prés, des vignes, sans parler, comme je l'ai dit, des dîmes dont bénéficiaient les Génovéfains. Ils possédaient aussi, dans chaque bâtiment, un mobilier, une vaisselle, un linge, qui représentait souvent une valeur considérable. L'ensemble de tous ces biens du clergé, ici comme dans toute la France, représentait donc une valeur énorme, qui explique la décision de l'Assemblée de les décréter biens nationaux, décision prise en novembre 1789, à l'initiative, faut-il le dire, des évêques eux-mêmes, enfin de certains du moins, en particulier Talleyrand. Et décréter biens nationaux ces biens du clergé pour permettre, grâce à leur vente, de combler l'énorme déficit toujours ouvert et qu'on n'a pas trouvé le moyen encore de combler. C'est au mois de mai 1790 que les officiers municipaux procèdent à l'inventaire des meubles et objets de tous ces couvents, sur ordre de l'administration. Ces inventaires n'ont donné lieu, ici, semble-t-il, à aucune contestation, et les religieux ont quitté leur couvent pour vivre comme tout le monde. Ils iront habiter, souvent à plusieurs, dans diverses maisons de la ville. Deux ou trois s'installeront au pavillon de Philippi, le notaire, dont j'ai déjà dit que c'était la maison de Madame et Monsieur Dutin. D'autres s'installeront chez Mademoiselle Sarmejeanne, rue de la Pélisserie, une des maisons ou la maison qu'habite Mademoiselle Alice Puech ou une maison voisine. D'autres iront habiter rue Guillaume Peyre, dans cette maison où l'on a découvert, il y a 2 ans, un papier concernant les cloches. Et enfin, d'autres, et les certains chanoines en particulier, comme Lassos, qui reste curé de la paroisse, continueront d'habiter, en toute liberté, dans l'ancien couvent des Génovéfains. Je précise aussi que le prieur de Beaulieu, le prieur mage de Beaulieu, Noïc, viendra habiter Saint-Antonin. Ils participeront, ces ecclésiastiques, du moins la plupart, à la vie municipale. Entreront un moment au comité de sûreté, dont vous vous souvenez qu'on les avait exclus. Ils seront électeurs dans les assemblées primaires électorables. Ils seront élus notables. Cette prétendue spoliation, comme on dit, des biens du clergé, n'a soulevé ici aucune émotion particulière. Elle a tout au contraire grandement satisfait les paysans qui se sont trouvés soulagés du poids de la dîme qu'ils s'empressent bien sûr de ne plus payer au grand mécontentement des fermiers de cette dîme.
Oui, les ecclésiastiques acceptent facilement dans le sort qui leur est réservé.
J'en suis persuadé.
Oui, mais ils perdent quand même toute leur richesse. Et oui. Contrairement à d'autres classes sociales, le clergé avait une arme pour se défendre, la crainte de Dieu.
Oui.
Ils ne l'ont pas utilisée. Comment expliquer cette résignation? Surtout si on se souvient avec quelle virulence les ecclésiastiques ont défendu leurs privilèges il y a moins de 150 ans.
Ah oui, mais c'est que les choses ont bien changé maintenant. Il y a quand même, ce serait très long d'expliquer tout, une bonne partie des gens qui ont décidé cette vente des biens nationaux, cette spoliation, une bonne partie de ceux qui l'ont décidé appartiennent au clergé. Je l'ai dit, il y a même des évêques comme Talleyrand, mais il n'y a pas que des évêques. Il y en a un grand nombre. Parce que maintenant, nous n'en sommes plus au temps de l'Inquisition ou de la Réforme ou de la Contre-Réforme. Et je pense que beaucoup de ces religieux trouvent très bien d'aller vivre ailleurs, hein, et de participer à la vie du siècle, à la vie civile, tout simplement. D'autre part, ils savent qu'ils auront une compensation. Et pour la plupart d'entre eux, ils vont être, non, je le préciserai mieux plus tard, ils vont être des fonctionnaires ou des pensionnés de l'État. On va bientôt fixer leur salaire, leur traitement. Et si j'ai dit que la plupart étaient très riches, Vous savez que les frères Convert, par exemple, eux, ils n'étaient pas riches parce qu'ils n'avaient pas grand-chose du revenu de l'abbaye. Et ils sont très contents d'avoir un revenu fixe. Donc les choses se passent bien et il y a un changement profond. La crainte de Dieu au XVIIIe siècle, hein, ce n'est plus de mode, disons. Et alors, tout passe bien. Oui, cette décision de vente des biens du clergé va combler d'aise nos riches bourgeois qui se presseront à la vente aux enchères du 17 juin 1791 à Villefranche de Rouergue. C'est ce jour-là, 17 juin 1791, que seront vendus les biens nationaux. Contrairement à ce qui a pu se passer ailleurs en France, la municipalité de Saint-Antonin avait obtenu que les terres dépendant des couvents soient vendues en plusieurs lots, ce qui a permis à quelques laboureurs, à quelques jardiniers et même à un brassier de se porter et de devenir acquéreurs de quelques lots. Mais les immeubles, eux, seront acquis par des bourgeois, riches bourgeois ou riches artisans. Par exemple, c'est François Beaule, ancien juge royal, administrateur du district d'ailleurs, qui achète Costejean pour 20 000 livres et ce sera sa maison de campagne où il ira s'installer. C'est Jean-Pierre Delteil, aubergiste. Attention, l'aubergiste, c'était un hôtelier à ce moment-là, hein, c'était, il ne faut pas croire que c'était un petit estaminet. Il s'adjuge l'ancien couvent des Carmes, sur la route de la Guépie, là-haut, pour 12 600 livres. Et c'est un autre aubergiste, Barthélemy Piquet, qui obtient les cordeliers, mais lui, il les a pour 3 000 livres. C'était pas beaucoup. C'est un Saint-Antoninois aussi. Joseph Perret, ancien capitaine de navire marchand. Il faut entendre par là un très important négociant qui faisait du commerce avec les Antilles, et sans doute aussi qui était un peu négrier, c'est-à-dire qui faisait la traite des nègres. C'est donc c'est Joseph Perret qui sera acquéreur des deux lots de Beaulieu, l'abbaye et ses abords, et le domaine attenant de Bosgaïral, une belle ferme sur le plateau, pour la somme énorme de 87 800 livres. Songez que le budget de la commune à cette époque-là ne dépassait pas 7 000 livres. Et lui, il avait 87 800 livres, donc une fortune. Ces paiements, d'ailleurs, seront effectués, vous le savez sans doute, chers auditeurs, d'une façon très avantageuse pour les acheteurs. Ils seront effectués en assignat, cette nouvelle monnaie créée sous la Révolution. Et je ne vais pas revenir sur l'émission des assignats. Ils seront payés à partir de plusieurs mois. On ne les paiera pas tout de suite, d'ailleurs, les biens nationaux. Et comme les assignats se dévaluent, finalement, ce sera tout bénéfice pour ces acquéreurs. Pour ce qui est des meubles et des objets des monastères et des couvents, ils seront aussi vendus aux enchères. Une première partie en avril et l'autre aussi au mois de juin 1791. Vous voyez, tout ce printemps 91. Et on les vendra en plusieurs lots. Par exemple, pour Costejean, on fera 51 lots qui seront acquis par 23 personnes. C'est peut-être idiot ce que je dis là, de donner tous ces détails, mais moi ça me paraît touchant. Pour les Génovéfains qui habitaient la mairie actuelle, on fera 91 lots des meubles et objets qui seront adjugés à 36 personnes. Et réserve faite, là, des objets, des effets, du linge et des meubles nécessaires au curé. Pour les Carmes, 36 lots répartis entre 22 personnes. Pour les Capucins, 35 lots et 19 acheteurs. Enfin, pour les Cordeliers, 21 lots acquis par 16 personnes. Tous ces acquéreurs, nous en avons la liste et on pourrait la donner, tous ces acquéreurs d'objets, de bibelots, de meubles, de tapisseries, de livres, de ces couvents, tous étaient des bourgeois, des marchands et des prêtres, des ecclésiastiques qui se sont portés acquéreurs. les uns pour un objet de culte, etc. C'est très touchant. Et c'est dit froidement dans des états, c'est détaillé comme ça, dans des états officiels.
Oui, vous nous avez parlé la semaine dernière de ceux qui avaient profité de la vente des biens du clergé.
Oui.
Il semble pourtant, aux chiffres que vous annoncez, que cette vente se soit faite à des prix très élevés, au moins pour certains domaines.
Pour ceux qui en valaient la peine.
Oui, où est le profit
Ah, mais c'est que le profit, d'abord, au prix très élevé, je dis qu'ils avaient beaucoup d'argent. Perret, il avait plus de 80 000 livres maintenant, c'était une fortune, mais je n'ai pas dit que le prix était élevé. La mise à prix de ces domaines ne s'était pas faite au hasard. Elle s'était faite par expertise de personnages qui étaient des géomètres, qui étaient des féodistes, c'est-à-dire spécialistes des contributions, hein, qui avaient l'habitude, comme on dirait aujourd'hui, les domaines, si vous voulez. Et on avait fait une mise à prix. Dans certains cas, par exemple les cordeliers, 3000 livres ils se sont vendus. Ils avaient été mis à prix à 2950 livres. Hein. Ça ne s'est pas vendu beaucoup plus cher. Par contre, évidemment, Bosgueiral, qu'il a payé 87 800 livres, s'il n'avait payé que le prix de la mise à prix, il les aurait eus pour 60 livres. Seulement pour Beaulieu, Bosgueiral, il devait y avoir des candidats.
Pourquoi il n'avait pas été divisé ce domaine?
Eh bien, c'est la commune de Ginals. C'est la commune de Ginals et les officiers municipaux de Ginals n'avaient sans doute pas cru nécessaire de demander la mise en lot du domaine. Je pense que c'est ça. Ici, nous avons une délibération du conseil de ville qui demande instamment à l'administration que les terres soient mises par lot. C'était une volonté municipale et on en a tenu compte. Que je n'ai pas parlé de la vente du couvent des Capucins ni de la maison des Chanoines, la mairie actuelle. C'est que la vente de ces deux édifices avait été réservée à la demande de la municipalité qui avait obtenu que ces belles maisons soient affectées, les Capucins, pour servir d'école communale de garçons et son église comme succursale de l'église paroissiale. Le couvent des Génovéfins, pour servir de presbytère. Il aurait été grand, hein. Mais la municipalité avait peut-être une autre vue là-dessus. Ces deux établissements resteront donc encore longtemps à vendre. Et ils seront déclarés biens nationaux. On dira la maison nationale de la rue Saint-Angèle. C'est le couvent des Génovéfins. La maison nationale de la rue droite. C'est le couvent des Capucins. Le couvent des Génovéfains sera définitivement sauvé de la vente quand, le 14 décembre 1791, c'est une date importante pour l'histoire de notre ville, la municipalité décide de s'y installer et d'en faire la maison commune, ce qu'elle est encore. Notre mairie a donc été ouverte pour la première fois le 14 décembre 1791.
Oui, alors monsieur Julien, que devient la maison commune d'alors, c'est-à-dire le musée actuel?
Eh ben, elle est abandonnée purement et simplement. Elle était dans un état déplorable, les planchers étaient pourris, la toiture en partie démolie, et on la laisse à l'abandon, et elle restera comme ça, en quasi-total abandon, comme dépendance de la Halle aux Grains, jusqu'en 1846, où Viollet-le-Duc en entreprendra la restauration, mais nous reverrons à ce moment-là ce qu'on en fera. Donc voilà, réglé par la vente des biens nationaux, voilà réglé la situation matérielle de l'Église de France. Mais sa situation spirituelle n'est pas encore réglée.